France Inter, Élysée 2022. Léa Salamé, Nicolas Demorand, un candidat face aux 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous vous proposons une nouvelle édition de nos 7-9 grands formats qui nous emmèneront jusqu'à l'élection présidentielle. Le principe, vous le connaissez, vous l'avez désormais bien en tête. Un candidat, sa vision de la France, de son économie, de ses relations internationales, mais aussi de l'écologie et de la politique, plus tous les sujets que vous avez envie d'aborder, amis auditeurs. Vous aurez longuement la parole dans une vingtaine de minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter.
Et notre invité ce mardi est le candidat communiste à la présidentielle. Bonjour Fabien Roussel.
Bonjour Léa Salamé, bonjour Nicolas Demorand.
Et bonjour.
Êtes-vous heureux Nicolas Demorand?
Oui, très évidemment.
Après 9h, vous répondrez aux questions des éditorialistes et spécialistes de France Inter, Dominique Seux sur l'économie, Sandy Dauphin sur l'écologie, Thomas Legrand sur la politique, Pierre Aski sur l'international. Le point final de ce 7-9, ce sera la question trapenard sur la question culturelle.
Et là, ce sera le point d'orgue du bonheur.
Bien
dans
sûr.
Cette élection présidentielle, Fabien Roussel, on ne va pas à l'infini sur la fragmentation de la gauche, les nombreux candidats qui s'en réclament. La nouveauté en 2022, c'est votre présence, celle d'un candidat communiste qui va concourir sous ses propres couleurs. Ça, c'est une première depuis 15 ans. Alors, une question panoramique pour commencer. Expliquez-nous pourquoi cette candidature, alors que toutes les nuances de gauche sont présentes sur la palette, qu'est-ce qui rend une candidature communiste nécessaire, selon vous, en 2022 ?
Parce que je revendique le droit au bonheur. Et je dis même que le bonheur, c'est contagieux. Et qu'on a eu trop, depuis 10, 15, 20 ans, de réformes punitives, d'économies. On a demandé aux Français de faire des efforts incroyables. Nos services publics ont été abîmés. Je dis basta. Je veux des réformes heureuses. Je veux croire au bonheur parce que c'est possible et dire aux Français que l'argent est là. Il coule à flot pour certains, mettons-le au service du développement humain et de la planète.
Le communisme, c'est le bonheur donc pour vous?
C'est la justice sociale, la justice fiscale, c'est le sens du partage et de la solidarité, c'est le droit au beau, au bon et au propre, c'est la dignité humaine et le respect de la dignité humaine, et notamment pour tous. Toutes celles et ceux qui travaillent. C'est le cœur de mon combat, c'est de défendre la France qui travaille, la France de la bonne paye, la France de la dignité.
Alors vous publiez un livre-programme pour nous inviter à être heureux, puisque vous appelez ça la France des jours heureux, en hommage au programme du Conseil national de la Résistance, j'imagine. Un livre-programme, Fabien Roussel, de 124 pages, de 180 propositions. Il y en a 180. Emploi, pouvoir d'achat, laïcité, Europe, il y a tout dans votre programme, sauf le mot communisme. Pourquoi ? Il est dépassé ce mot ou alors vous avez la fierté communiste un peu honteuse ?
Enfin,
on a bien regardé, hein ?
Mais pas du tout. Mais c'est pas la peine de l'écrire dans le programme, puisque à chaque fois que je suis invité à un plateau, à chaque fois je suis présenté comme le candidat du Parti communiste. Je suis le candidat de la France des jours heureux, présenté, soutenu par ma formation politique, mais aussi soutenu par des dizaines de milliers de personnes d'horizons divers, sans étiquette politique. Et je souhaite, moi, présenter mon programme à la France et incarner une France populaire, généreuse, solidaire. Et c'est pour ça que...
Donc ça dépasse le communisme, c'est ça ?
Mais largement. Enfin, quand on...
C'est pour ça que, sans doute, vous avez oublié de le mettre, le mot.
Mais c'est pas un oubli. C'est incarner cette France qui aujourd'hui veut se faire respecter, qui veut avoir droit à une vie digne, tout simplement, pour ses enfants, pour ses grands-parents, pour soi-même. C'est faire en sorte que l'on puisse montrer qu'il est possible de s'attaquer à la vie chère, au pouvoir d'achat, faire en sorte que quand on travaille, on puisse vivre dignement. Mais ça paraît tellement simple et de bon sens que de dire ça, et pourtant c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'a fait le président de la République pour défendre le pouvoir d'achat des Français ? Il est même pas encore candidat à l'élection présidentielle, et on ne sait rien de ce qu'il ferait demain. Est-ce qu'il va augmenter les salaires ? Est-ce qu'il pourrait dire que, par exemple, s'il est élu, eh bien, dès juillet, il y aura une réforme des retraites pour nous faire travailler plus longtemps, qu'il n'y aura pas de hausse du SMIC ? Enfin, quand même, moi, je veux porter ces questions au cœur de l'élection présidentielle, et j'invite Macron à se démasquer, parce que c'est le temps d'enlever son masque.
On va y venir, on va revenir en France, mais après tout de même un détour par la situation internationale, avec cette tension qui reste maximale dans la crise ukrainienne. Les discussions diplomatiques se poursuivent, mais sans parvenir à ce stade à la désescalade. Fabien Roussel, vous seriez président aujourd'hui, vous diriez quoi à Vladimir Poutine ?
Je dirais d'abord à Vladimir Poutine, comme aux Français et au peuple d'Europe, qu'il n'y aura pas de sécurité en Europe sans garantir la sécurité du peuple russe. C'est réciproque. Nous vivons ensemble, l'un à côté de l'autre.
Ouais, alors excusez-moi, c'est pas la sécurité du peuple russe qui est menacée, là c'est la sécurité du peuple ukrainien,
il
me semble.
Il n'y aura pas de sécurité en Europe pour le peuple ukrainien, pour le peuple français, sans garantir la sécurité du peuple russe. Nous vivons ensemble. Et je dirais à Vladimir Poutine que si l'Ukraine a le droit de demander à entrer dans l'OTAN, c'est le droit de chaque peuple souverain de dire ce qu'il souhaite en termes de politique étrangère, je dirais à Vladimir Poutine, et je dirais publiquement, qu'il n'est pas d'actualité que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Il faut le verbaliser, le dire. Le dire, puisque c'est une demande de Vladimir Poutine.
Les Allemands et les Français l'ont dit au sommet de Bucarest. Hein.
En 2008, ça a été dit.
Ils sont pas revenus dessus.
À la demande, oui, mais c'était une demande des Américains de l'époque. Ils voulaient nous forcer la main et forcer l'Ukraine, forcer les gouvernements français, européens, à ce que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Et c'est effectivement 10 pays, dont la France et l'Allemagne, qui ont dit non, ce n'est pas d'actualité, ça va fragiliser l'équilibre diplomatique qu'il y a ensemble, nous, de l'Atlantique à l'Oural.
Mais qui est l'agresseur aujourd'hui, Fabien Roussel ? C'est l'OTAN ou c'est la Russie ?
Vous voulez que je vous dise, Nicolas Delamorant, sérieusement, je suis inquiet par ces bruits de bottes qu'il y a des deux côtés de la frontière. Autant les bottes des soldats.
Il y en a moins d'un côté que de l'autre. Hein.
Mais je suis autant inquiet des bataillons russes qui s'amassent à la frontière ukrainienne que des armes qui arrivent du côté de l'Ukraine, parce que je ne veux pas revivre ce qui s'est passé en 1914 et l'attentat de Sarajevo qui a déclenché une guerre mondiale. C'est une véritable poudrière qui est en train de s'installer à cette frontière, à la frontière de l'Europe, à 2 heures de Paris, une poudrière. Et il suffirait d'un incident, d'où qu'il vienne. On pourra toujours faire des livres d'histoire après pour savoir qui a commencé. Mais ce sera trop tard.
Mais pour
et donc,
vous...
il faut la désescalade, il faut le désarmement, il faut faire des signes de part et d'autre pour enlever, démilitariser cette zone.
Mais pour qu'on comprenne bien votre position, pour vous, aujourd'hui, la situation en Ukraine, c'est à égalité la faute de la Russie et de l'OTAN. C'est ce que vous nous dites. C'est-à-dire que le fait que la Russie mette 150 000 hommes à la frontière de l'Ukraine, le fait que la Russie ait envahi la Crimée, occupe une partie du Donbass, donne des armes aux combattants pro-russes dans le Donbass, le fait que la Russie aujourd'hui fasse des manœuvres militaires en Biélorussie, tout ça, pour vous, c'est à égalité avec l'OTAN.
Mais je suis pas naïf et je sais bien que Poutine est aussi quelqu'un qui joue du coup de menton en ce moment. C'est pas un grand démocrate et je ne suis pas quelqu'un qui défend la politique de Poutine, que ce soit clair. La diplomatie, c'est pas de parler qu'avec ses amis, c'est de parler avec tout le monde. Et je suis, moi, pour redonner de la force à la diplomatie, et je ne suis pas pour la diplomatie de la force. Ça veut dire que je voudrais, moi, que l'on ait un vrai dialogue et que l'on dise clairement à la Russie que oui, l'Allemagne et la France s'engagent à ne pas voter l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN.
Vous ne voulez pas que ça, Fabien Roussel, vous voulez sortir de l'OTAN, sortir de la dissuasion nucléaire. N'est-ce pas ce qui fait précisément là la puissance de la France dans le monde ? Si nous n'étions plus une puissance nucléaire, est-ce que la France compterait ? Elle compterait pourquoi ?
Alors, je voudrais préciser, parce que c'est pas tout à fait ça, monsieur Demorand, si vous permettez. D'abord, je demande, dans un premier temps, à ce que la France sorte du commandement intégré de l'OTAN. Ce serait un premier geste qui rendrait certainement notre parole plus crédible. La deuxième chose, c'est concernant la dissuasion nucléaire. Je milite, moi, pour que la France prenne le leadership d'une bataille auprès des autres puissances nucléaires, afin que tous ensemble, nous signons le traité d'interdiction des armes nucléaires. C'est un désarmement multilatéral que je souhaite, pour que l'on sorte tous ensemble de la dissuasion nucléaire. C'est ça que je souhaite, parce que aujourd'hui, c'est la planète tout entière qui devient une véritable poudrière. Il n'y a jamais eu autant de conflits dans le monde.
Absolument.
Il n'y a jamais eu autant d'armes vendues dans le monde.
Absolument. Le monde est ultra dangereux. Vous dites c'est une poudrière. Si on sort de l'OTAN, du commandement intégré puis de l'OTAN, si on renonce à notre dissuasion nucléaire, et si par malheur, la France était attaquée, comment on fait? Non. Si on n'a plus d'alliance militaire et si on n'a plus de dissuasion nucléaire, comment on va peser?
Non mais justement, ce sont deux choses distinctes. Nous pourrions aujourd'hui sortir du commandement intégré de l'OTAN pour avoir une parole plus forte, plus crédible, y compris pour parler à Poutine, pour parler aux Américains. Comment aurait fait Chirac et De Villepin en 2003 quand ils ont refusé de se lancer dans la guerre en Irak, si nous étions à l'époque dans le commandement intégré de l'OTAN? Je vous pose la question. Nous n'aurions pas pu, parce que nous étions liés à eux. Eh bien, aujourd'hui, je souhaite justement que la France puisse retrouver cette voie indépendante et puisse dire aux Américains, et parler librement aussi à Poutine, en disant clairement quelle est la politique de la France en matière internationale. C'est autre chose, la question de la dissuasion nucléaire. C'est un processus que nous devons engager. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut pouvoir en sortir.
Fabien Roussel, autant dissuasion nucléaire, on vient de vous entendre. Sur l'Europe, vous dites qu'il faut sortir des traités actuels dans l'objectif de construire une union nouvelle, celle des peuples et des nations souverain, libre et associé. Donc, vous proposez une Europe des nations, au fond, comme Marine Le Pen.
Vous faites là un parallèle dangereux qui n'est pas très heureux, monsieur Demand. C'est pas juste de dire ça, parce qu'on n'a rien à voir avec la France repliée sur ses frontières, le Brexit, le Frexit. Ce n'est pas ce que je défends. Et nous n'avons jamais défendu ça. Et quand nous nous sommes opposés au traité constitutionnel européen en 2005, nous avons défendu, nous, la construction d'une Europe des nations qui coopèrent entre elles et qui travaillent ensemble. Le pacte de stabilité, il est mort. Il est suspendu jusqu'à la fin de l'année. Il y a besoin d'écrire un autre pacte pour l'Europe. Et nous voulons un pacte pour l'emploi, un pacte pour relever le défi climatique. Nous voulons faire en sorte que l'argent de la Banque Centrale Européenne, ils ont fait tourner la planche à billets à coups de milliers de milliards d'euros. Je souhaite que cet argent qui a coulé à flot, effectivement, serve à investir dans la santé, dans l'école, dans la recherche, que cela serve à former des jeunes pour construire la France, mais aussi l'Europe de demain, que cela serve à réindustrialiser l'Europe et la France. Il faut que l'argent serve le développement humain et ne serve pas à nous mettre en concurrence les uns contre les autres. Nous ne pourrons pas relever les grands défis qu'il y a devant nous, celui de la lutte contre la pandémie, celui du défi climatique, celui de l'électricité. Nous ne pourrons pas mener ces grands défis tout seuls. Et donc nous disons que nous sommes tous liés les uns aux autres. Or, cette Europe, elle s'est construite sur la concurrence entre les peuples, et tout nous a tirés par le bas. Moi, je veux reconstruire une France forte et avec des liens forts avec chaque pays et chaque peuple.
Sur l'immigration, vous disiez quelques mots sur l'immigration pour vous distinguer de Marine Le Pen. En 1981, Georges Marchais, qui est votre lointain et célèbre prédécesseur, disait « il faut totalement stopper l'immigration, qu'elle soit légale ou clandestine ». 40 ans après, est-ce toujours votre ligne ?
Mais 40 ans après, la situation est complètement différente. La situation est complètement différente. Et à l'époque, Georges Marchais disait, c'était dans les années 80, que s'il y avait du chômage qui commençait à émerger en France, c'était à cause de l'immigration. C'était d'abord une erreur. Et aujourd'hui, 40 ans après, avec 6 millions de chômeurs dans notre pays, on peut dire, les yeux dans les yeux, que ce n'est pas à cause de l'immigration qu'il y a 6 millions de chômeurs en France. C'est quand même pas à cause de l'immigration qu'on a perdu 2 millions d'emplois dans l'industrie. C'est quand même pas à cause de l'immigration qu'il y a eu des coupes franches qui ont été faites dans nos hôpitaux publics, que l'on n'a pas assez de professeurs, d'instituteurs, que les enfants s'entassent par classe. C'est quand même pas à cause de l'immigration que nos aînés aujourd'hui se font piller les poches par des EHPAD privés. Donc, il faut
aujourd'hui
arrêter.
Aujourd'hui, vous êtes élu président dans 2 mois, Fabien Roussel. L'immigration, c'est à peu près 250 000 entrées sur le territoire chaque année. Si vous êtes président, ce sera plus, ce sera moins, ce sera pareil.
Nous avons une politique qui est définie par une politique migratoire qui est définie par des règles liées aux échanges que nous avons avec des pays et notamment des besoins que nous avons dans certains secteurs d'activité. Nous avons aussi une politique qui est liée et définie par le droit d'asile que nous souhaitons élargir, notamment pour pouvoir garantir l'accueil d'habitants
d'accord.
de
Mais
pays,
au-delà de
notamment
sur l'immigration, sur
notamment
le regroupement
familial. Le défi climatique. Vous voyez bien qu'un pays comme le Bangladesh aujourd'hui a des populations entières qui fuient parce que ce pays subit justement une catastrophe climatique. Donc, nous devons revoir ces règles, mais pas que nous. C'est l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et donc, nous sommes, nous, pour avoir ce débat avec tout le monde et que tout le monde prenne sa part. Et franchement, regardez aussi comment la France a tenu pendant cette pandémie. Les travailleurs étrangers et français dans nos hôpitaux, les médecins étrangers, les chirurgiens étrangers étaient aux côtés des médecins français, des chirurgiens français, ils ont travaillé la main dans la main. Donc notre pays est aussi riche et fort de ces échanges que nous avons avec tous les pays du monde.
Au chapitre économique que vous pourrez explorer en détail tout à l'heure avec Dominique, une question pour répondre au ruissellement d'Emmanuel Macron, cette idée que l'argent des plus riches finit par bénéficier à tout le monde en redescendant, en ruisselant donc. Vous voulez le mouvement inverse.
Le ruissellement.
Voilà, ce que vous avez appelé d'une formule ironique, le ruissellement. Dites-nous, derrière la plaisanterie, ce que ça veut dire exactement. Le ruissellement.
Le ruissellement, c'est irriguer l'économie en permettant à chacun, à la base, d'avoir un pouvoir d'achat, un salaire, une retraite qui permette de vivre dignement et donc d'investir tous les jours dans l'économie réelle. Quand on donne 200 à 300 euros de plus à un salarié parce que son salaire augmente, ou à un retraité parce que j'augmenterai les pensions en les mettant à 1200 euros net, et je rétablirai la demi-part fiscale pour les retraités qui a été pour les veuves et les veufs. Quand on donne 200 à 300 euros de plus à un citoyen, à un salarié, à un retraité,
c'est de la consommation.
Il ne va pas le mettre dans les paradis fiscaux, lui. Il va servir le pays. Il va aller dépenser son argent dans une bonne baguette, dans un bon resto, dans une expo. Il va peut-être changer sa machine à laver et sa voiture. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que le ruissellement, c'est aussi accompagner la transformation de la France en réindustrialisant le pays pour que ce que les gens vont acheter de plus soit produit en France. Je suis pour.
Parce que souvent c'est produit en Chine, hein, ou ailleurs.
Justement.
Mais vous allez mettre des douanes sur les produits chinois plus forts?
Des
douanes plus fortes, une taxe plus forte au niveau européen sur l'importation des produits chinois?
À l'échelle de l'Union européenne, carbone notamment. Ça, bien sûr que ça doit se poser. Mais bien sûr. Mais ça ne changera pas.
Et vous
pas.
Voterez pour.
Mais oui.
Même si ça fâche les Chinois.
Mais bien sûr. Mais alors ça, je leur ai dit les yeux dans les yeux, moi. J'ai aucun mal. Hein. Alors, je suis pas hypocrite sur ce sujet-là. Hein, parce que les industriels français qui font des leçons de droits de l'homme, mais qui délocalisent nos industries en Chine, c'est des sacrés hypocrites.
Alors,
Peugeot et Renault. J'aimerais bien qu'ils viennent rendre des comptes
sur
tout ce qu'ils ont délocalisé en Chine.
Vous allez y revenir avec Pierre Aski, puis vous reviendrez aussi sur l'économie avec Dominique Seux. Mais juste une question. Vous voulez un SMIC à 1500 euros net, Fabien Roussel,
oui, je préfère parler en brut. 1923 euros brut, ce qui fait 1500 euros net. Parce que le brut, c'est du salaire socialisé. C'est des cotisations pour financer notre sécurité sociale.
Juste rapidement, vous voulez également le passage à la semaine de 32 heures. Ces 32 heures seront payées 35, Fabien Roussel?
C'était la Saint-Valentin hier, 32 heures pour avoir 3 heures de plus pour vivre en couple. Non mais je pense à ça parce que c'est vrai que c'est ce qu'on a dit.
Qui va payer les 3 heures pour vivre en couple?
Je suis pour que l'on profite du progrès, des progrès techniques, technologiques, et que l'on aille vers les 32 heures et que l'on puisse négocier branche par branche, et notamment là où les métiers sont difficiles et pénibles, pour une réduction du temps de travail.
Mais comment vous voulez qu'un patron de TPE ou de PME s'en sorte et paye la différence? Comment il va faire pour payer son salarié 35 heures alors qu'il en travaille 32?
Mais je vais vous le dire, Madame Lersalem.
Avec plaisir.
Pas de problème. Je suis, moi, pour justement accompagner les entreprises pour qu'elles puissent le faire. Il y a ces grandes entreprises qui réalisent beaucoup de bénéfices aujourd'hui et qui pourront le faire non sans mal. Et d'ailleurs, l'égalité salariale femmes-hommes, elles devront le faire tout de suite, sinon je nomme un administrateur et crac, ce sera imposé. Je pense à toutes les banques qui font beaucoup de bénéfices et qui ne le font pas. Et pour les petites boîtes, les PME, les TPE, les commerçants, etc., nous les accompagnerons.
Donc
je suis pour que l'argent public de
l'État
soit là pour les accompagner. Je suis pour baisser les charges, mais les vraies charges, pas les cotisations. Ce qu'ils payent en électricité, en gaz, en assurance, c'est pour ça que je veux nationaliser AXA, pour baisser les cotisations. Et je suis pour les accompagner avec un prêt bonifié. Quand ils emprunteront 100, ils rembourseront 80.
Tiens, à l'instant, vous parlez de nationalisation, à l'instant, Bruno Le Maire vient de déclarer aucune option ne doit être écartée au sujet de la restructuration d'EDF, y compris une éventuelle nationalisation. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais quand je vous dis que ma campagne commence à infuser les esprits, y compris celui de Bruno Le Maire, je m'en félicite, bravo, il peut rejoindre mon comité de soutien, je lui ferai passer un examen de passage avant pour savoir s'il a tout bon sur le reste, mais je me félicite de ce pas.
Allez, on marque une pause et on revient avec les auditeurs de France Inter. A tout de suite, Fabien Roussel.
France Inter, un candidat face au 7-9.
Et ce candidat aujourd'hui est Fabien Roussel pour le Parti communiste. Il va débattre avec vous maintenant, vous êtes nombreux au standard. On fait donc circuler la parole tout de suite avec Richard pour commencer. Bienvenue.
Oui, bonjour à toute l'équipe, bonjour Fabien.
Bonjour.
Je suis un élu communiste, un adhérent au Parti communiste. Et une partie de nos camarades se sont égarés à soutenir Jean-Luc Mélenchon. Et j'aimerais savoir ce que je dois dire à mes amis pour qu'ils reviennent dans cette belle campagne.
Merci Richard pour cette question. Fabien Roussel vous répond.
Je pense que la campagne que nous menons en mettant le droit au bonheur et les jours heureux au cœur de toutes les propositions convaincra et marquera les esprits. On est en train de progresser, on est en dynamique et donc il faut surtout regarder ce qui marche chez nous et pas regarder ailleurs.
Mais les insoumis sont du côté de la tristesse, si on vous entend, des passions grises.
Bon, c'est pas ça, mais en fait, j'en ai marre, moi, d'une gauche et des écologistes qui donnent des leçons de morale, qui vous culpabilisent quand vous prenez la voiture, quand vous prenez l'avion, quand vous mangez de la viande, qui vous traitent de raciste quand vous êtes pour le nucléaire, ou qui vous disent que vous êtes raciste quand vous prenez un drapeau bleu-blanc-rouge. Eh bien, moi, ma France, c'est le drapeau rouge et le drapeau bleu-blanc-rouge. C'est celle aussi qui aime bien la gastronomie. C'est celle qui défend la voiture propre pour tous, qui défend l'avion propre à hydrogène, pour tous, qui défend le droit, comme je le disais tout à l'heure, au beau, au bon, au propre, à la sécurité, à la tranquillité, à une vie digne, quoi. Voilà.
D'accord,
donc c'est différent, effectivement,
dites,
des autres.
Vous dites que vous vous distinguez de Jean-Luc Mélenchon sur la sécurité et la police, notamment. Moi, je ne traite pas les policiers de factieux, dites-vous à son attention. Vous voulez créer 30 000 postes de policiers? Si vous êtes élu, 30 000 postes, vous allez plus loin que la droite et l'extrême droite, Fabien Roussel.
Oui, et ça ne suffira pas. Et en plus, je dis que ça ne suffira pas. Ça veut dire que si on crée... Moi, je suis pour recréer du lien entre la police et la population. Recréer une police de proximité, proche des gens, pour les incivilités du quotidien. Remettre du bleu sur le terrain, mais vraiment. Mais ça ne suffira pas. Il nous faut des OPJ, il nous faut des enquêteurs, il nous faut des commissaires, il nous faut des moyens pour la justice, beaucoup de moyens pour la justice, des greffiers, des magistrats, des juges, des procureurs. Il en faut pour qu'ils aient les moyens de traiter les plaintes dans les temps, pour qu'ils aient les moyens d'enquête. Il nous faut des spécialistes pour aller traquer les délinquants en col blanc qui font les trafics de drogue, la traite des êtres humains, le trafic d'armes. Et là, c'est dans les banques qu'on va aller les chercher. Et pour cela... Les policiers que j'ai rencontrés, le syndicat des commissaires que j'ai rencontrés, le syndicat de la magistrature que j'ai rencontré, tous demandent des moyens humains, des moyens d'enquête pour pouvoir s'attaquer à tous ces fléaux. Je l'assume, je veux mettre le paquet là-dedans pour restaurer une forme d'autorité de l'État, mais garantir la tranquillité pour tous.
Et c'est maintenant Nicolas qui est au standard. Bienvenue.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Je me posais la question de savoir si Monsieur Roussel, qui n'est apparemment que le coluche des temps modernes, avec la sympathie des médias et une probabilité d'être élu inférieure à 5%, ne témoigne-t-il que d'un témoignage sans légitimité historique et qui détourne les gens de l'essentiel, à savoir lutter contre les puissants et les forces de l'argent fou, la lutte contre les inégalités matérielles, le mal logement et la précarité alimentaire. Et en priorité, vraiment en priorité, c'est ça le socle de notre République, donner des moyens supplémentaires et une liberté pédagogique pour l'école de la République, seul gage d'un réel progrès, tant qualitatif que quantitatif de l'instruction.
Bien compris, Nicolas, merci. Alors allez-y, mais allez-y un peu court.
Ça, tout ça détruit la planète et le modèle social français, héritier des accords sociaux de l'après-guerre.
Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Déjà, le Coluche de cette campagne 2022, c'est-à-dire...
C'est quoi la question?
Sur Coluche?
Non, la question posée par monsieur,
c'est
quoi?
Il y en a plusieurs, on va y arriver. Mais bon, vous êtes un candidat des médias, vous avez la sympathie des médias et vous ne pouvez de toute façon pas prétendre à autre chose que moins de 5%. C'était ça, le début.
Mais écoutez, je suis venu, moi, dans cette campagne avec la volonté sincère, franche, réelle, de bousculer cette campagne, de faire en sorte que le président des riches soit battu, mais surtout que l'on puisse lui opposer un programme nouveau qui remette la question sociale, la question de la vie chère, la question des salaires au cœur de la République que je veux reconstruire. Et donc, je n'y vais avec pas d'autre arrière-pensée que celle de la sincérité et avec mon cœur. Et je préfère qu'on fasse de la politique avec son cœur et avec sa tête que de la politique avec de la bile et avec ses tripes. Et moi, je fais de la politique avec mon cœur et avec ma tête.
La bile et les tripes, c'est pour qui ?
C'est pour personne. C'est, je dis, la différence que j'ai avec tous les autres. Et moi, je veux faire de la politique sincèrement et avec mon cœur et avec ma tête.
Voilà. Alors, il y en a un que vous avez soutenu aux deux précédentes présidentielles, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui est en tête aujourd'hui à gauche, qui est autour de 10%, et qui fait un grand pas vers vous, puisqu'il est prêt à vous dire « Si tu me rejoins, Fabien, je veux bien... » faire un grand référendum sur la question du nucléaire, puisque c'est ce qui nous sépare, faire un référendum sur la question du nucléaire, et si je perds le référendum, eh bien je me rallie à toi et je n'arrêterai pas le nucléaire. Il vous tend la main comme ça, vous lui répondez quoi ?
Et je dis que le référendum sur cette question, c'est celui de l'élection présidentielle. Et comment Jean-Luc Mélenchon, Jadot et les autres peuvent-ils une seule fois imaginer qu'aujourd'hui, on va reconstruire la France, réindustrialiser la France, se passer des énergies fossiles, le gaz, le charbon et le fioul, l'essence, d'ici 2050, sans investir dans l'énergie nucléaire. C'est une faute. C'est une faute lourde, profonde. Pour moi, la question énergétique, elle est fondamentale.
Et vous la traiterez
et justement,
avec
je
son
suis
dit dauphin.
Et de l'énergie nucléaire et des énergies renouvelables. Je veux les deux.
Vous y reviendrez en longueur avec Sandy Dauphin. Je salue Corinne au standard. Bienvenue, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
J'ai lu votre programme. Et j'aimerais savoir, concernant les allocations données aux étudiants, si elles seront même données aux enfants de milliardaires, et puisque les salariés devront verser 5 euros de plus dans leur cotisation sociale pour assurer 850 à 1000 euros aux étudiants selon leur situation, qu'en sera-t-il pour faire contribuer les plus riches ?
Merci Corinne pour cette question. Fabien Roussel, revenu étudiant pour commencer.
Merci Corinne pour cette question qui est très importante et effectivement qui mérite une explication. Oui, je suis pour une allocation universelle d'autonomie pour les étudiants afin de permettre à chacun, chacune, de pouvoir faire ses études sans être obligé de travailler à côté. À partir de 850 euros pour tous et qui pourrait monter à 1000 en fonction de la situation, s'il a un logement ou pas. Et vous me dites, mais quand même, un gosse de riche, le fils de Bernard Arnault, il a pas besoin de ça. Sauf que, avec moi, Bernard Arnault, il verra l'impôt de solidarité sur la fortune s'appliquer et même multiplier par 3 par rapport à aujourd'hui avec le président des riches, monsieur Macron. Bernard Arnault et tous les Bolloré, Pinault et consorts paieront plus d'impôts sur les bénéfices de leurs multinationales. Ils verront le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales s'imposer parce que c'est une mesure que je défends depuis le début. Mmh. Donc ils vont contribuer beaucoup plus au budget de la nation et ça pourra financer aussi, donc en retour, les 850 euros d'études pour leurs enfants.
Dans le sillage de l'interview de 7h50, quand Léa Salamé recevait Mathieu Aron et Caroline Michel-Aguirre qui publie ce livre sur les cabinets de conseil et la manière dont ils ont pris le contrôle de l'État, le titre c'est Les Infiltrés, cette question de Monique sur l'application France Inter, étiez-vous au courant de ce putsch, dit-elle, exercé à bas bruit dans les coulisses du pouvoir par ces cabinets de consultants ? Est-ce que ça coûte un pognon de dingue aux contribuables.
C'est tellement vrai, c'est tellement juste. Oui, nous étions au courant, et tellement au courant que nous l'avons dénoncé, et tellement au courant que Éliane Assassi, présidente du groupe communiste au Sénat, a déposé une commission d'enquête que nous avons obtenue. Elle a auditionné les différents cabinets conseils. Ce sont des centaines de millions d'euros, ça va dépasser le milliard, l'argent public donné à des cabinets conseils comme McKinsey et compagnie, parce que ce gouvernement a fait le choix de transférer à ses cabinets privés le soin de mettre en place des politiques publiques, notamment dans le cadre de la pandémie, alors que nous avons un appareil d'État, alors que nous avons une fonction publique, nous avons des hauts fonctionnaires, nous avons des directions, une administration centrale qui est là pour le faire. Mais vous savez, s'ils ont fait ça, c'est aussi la conséquence des politiques qui ont été menées depuis Sarkozy jusqu'à aujourd'hui, où on a affaibli l'administration. Vous savez, à force de taper sur les fonctionnaires, les privilégiés, sur l'administration française, eh bien, on l'a affaibli. Sous Sarkozy, il y a eu 90 000 fonctionnaires en moins. Et ils ont continué cette pente-là.
Il y a aussi beaucoup de hauts fonctionnaires qui quittent la fonction publique pour aller dans ces cabinets de conseil où ils sont beaucoup mieux rémunérés.
Ça, c'est ce que nous dénonçons à chaque fois, c'est le pantouflage. Et effectivement, ça ne doit pas être autorisé. C'est encadré et pas assez. Mais il y a aujourd'hui beaucoup de hauts fonctionnaires qui ont le sens de la République et de l'intérêt public et qui se sentent méprisés par un président qui se comporte comme dans une start-up et qui délègue au cabinet privé le soin de mettre en place les politiques de l'État.
On précise, et on l'a dit tout à l'heure à 7h50, que c'est pas illégal. Hein.
Non, c'est pas illégal, mais j'en profite pour adresser un soutien à cette haute administration qui peut se sentir méprisée par cette politique du gouvernement du président de la République. Et moi, je veux redonner tout son sens, justement, à cette fonction publique et à la haute fonction publique.
Fabien Roussel, vous êtes chasseur.
Comment ?
Vous êtes chasseur.
Non, je suis pêcheur. Pêcheur à la ligne.
Vous défendez les chasseurs, vous dites que les chasseurs sont essentiels à la préservation de notre environnement et vous dénoncez, je vous cite, les intellectuels condescendants qui donnent des leçons. Vous êtes donc clairement pro-chasse. Est-ce que vous êtes pour toutes les chasses à courre aussi, notamment, particulièrement cruelles ?
Non, je ne soutiens pas la chasse à courre et je défends la chasse qui est pratiquée comme un loisir par tous les chasseurs qu'il y a dans notre pays, qui est une tradition qui résulte de la Révolution française, parce qu'avant la chasse n'était réservée qu'aux seigneurs. Et aujourd'hui, elle est populaire, et j'en connais beaucoup. J'étais encore avec eux ce week-end dans un banquet organisé par une société de chasse. Ce sont des jeunes, des hommes, des femmes, qui travaillent d'ailleurs, des gens modestes qui ont ça comme loisir. Et je dis que la forêt doit appartenir à tout le monde et que tout le monde doit pouvoir vivre ensemble et dialoguer ensemble. Ils ont des règles extrêmement strictes pour pouvoir pratiquer ce loisir. Et vous savez, les riches chasseurs, eux, si on leur interdit demain d'aller chasser, ils iront en Afrique tuer du rhinocéros. Et donc, je veux, moi, respecter ce loisir populaire, qui est strictement encadré et instaurer un vrai dialogue avec tous ceux qui souhaitent pratiquer la nature et la forêt.
Alain est au standard. Bonjour Alain, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour.
J'ai été cadre dans ma vie. À 60 ans, j'ai eu ma retraite parce que carrière longue. À 62 ans, l'âge légal de la retraite, j'ai recommencé à travailler en tant que chauffeur-livreur pour un EHPAD. Et je me dis, aujourd'hui, seriez-vous prêt à refaire une réforme du chômage et à obliger les demandeurs d'emploi à prendre un poste de chauffeur-livreur, en l'occurrence, même si ça ne correspond pas, mais d'aller travailler pour encaisser leurs indemnités ?
Parce que vous avez été obligé, en quelque sorte, Alain, de prendre ce poste qui n'était pas pourvu, c'est ça ?
Ben, quand je me suis vendu au téléphone au directeur comme un petit jeune de 25 ans, il m'a dit, mais monsieur, je ne trouve personne, même pas un chômeur.
Mais pourquoi vous avez repris le travail à 62 ans ?
Parce que je m'ennuyais, monsieur.
D'accord, parce que vous auriez aimé continuer à travailler, en fait.
C'est Fabien Roussel qui vous parle.
D'accord.
Oui, oui, monsieur, oui, j'ai compris. Ah. Oui, je m'ennuyais et j'aurais même souhaité bénéficier de la société, le troisième armateur mondial où je travaillais, de faire du parrainage pour former des jeunes. Et ça n'existe pas.
Mais il a raison. Merci Alain pour cette question. Fabien Roussel y réagit.
Il a raison. D'abord, je propose la retraite. Nous proposons la retraite à 60 ans. Et mettre en place la retraite à 60 ans, c'est permettre à 1 200 000 personnes de pouvoir partir, profiter de la vie enfin. Et donc, c'est proposé à 1 200 000 jeunes de rentrer dans l'emploi et effectivement d'être formés par les anciens, d'avoir un tuteur, de rentrer dans la vie active. Mais cette retraite à 60 ans, je l'ai déjà dit, ne s'imposera pas. Celles et ceux qui souhaitent pouvoir continuer à travailler, comme monsieur, doivent pouvoir le faire. Et je respecte tout à fait ce choix que certains s'éclatent tellement au boulot qu'ils ont envie de continuer, mais qu'ils puissent le faire. Mais ceux qui sont cassés par le travail, abîmés par une vie au travail, qu'ils puissent partir à 60 ans avec une vraie retraite. Et ensuite, nous disons le travail universel, le droit universel à l'emploi. Ça veut dire que je veux une France du travail et du salaire et pas une France du chômage et des minima
mais
sociaux.
Mais c'est complètement différent. Quitte à contraindre des chômeurs à prendre des emplois qu'ils ne veulent pas prendre. C'était ça la question,
oui,
Alain.
Mais pourquoi toujours contraindre, punir, etc.
Le cas échéant, c'était la question qui vous posait.
Si on crée une France de l'emploi, si on dit allons-y tous ensemble, on va investir dans nos services publics, on va relocaliser l'industrie, on va relever le défi climatique, on va appeler les jeunes à s'engager dans ce chantier, on va ouvrir des bureaux d'embauche dans les villes, dans les départements pour faire appel à tous ces besoins, on va former à chaque fois. Et quand les gens s'inscriront dans une formation, ils seront rémunérés correctement. On a besoin d'instits, on a besoin de soignants, on a besoin de soudeurs, d'ajusteurs. Je veux passer le bac pro en 4 ans au lieu de 3 parce que justement tous ces métiers industriels, autant pour les hommes que pour les femmes, on en a besoin. Mais on a un grand chantier et si on crée cet élan, mais d'abord occupons-nous de tous ceux qui vont s'inscrire dedans. On a 3 à 4 millions d'emplois à créer tout de suite. C'est ça le chantier que je veux ouvrir. Et donc il n'y a pas besoin de forcer celui qui ne voudra pas y aller. Moi je veux déjà proposer à tous ceux qui ont envie de le faire, de pouvoir le faire.
Farid au Standard, bonjour, bienvenue.
Eh bien je vous remercie de m'accueillir.
Bonjour,
j'ai
Farid.
Une petite question pour monsieur Fabien Roussel. Est-ce que dans la France du bonheur qu'il rêve, il y a la légalisation du cannabis? Est-il favorable à une réforme de la politique de contrôle des stupéfiants et notamment pour améliorer la situation en milieu rural et dans ce qu'on appelle les zones de non-droit en banlieue?
Merci Farid pour cette question à relier donc à votre philosophie du bonheur, Fabien Roussel.
Alors, d'abord, je voudrais dire que la politique répressive qui a été menée pour lutter contre l'usage de stupéfiants, elle est en échec. Elle marche pas, voilà. Donc elle doit être complètement revue.
C'était pas la question. Hein.
Non, ouais. Mais oui, mais je le dis. Il me parle de politique répressive.
Ouais.
Elle
mais
est en échec.
Donc je
vais pas la soutenir. Et sur cette question, moi personnellement, tout seul, j'ai pas totalement fait mon avis. Je penche vers plutôt la dépénalisation que la légalisation. Et je veux pousser la discussion jusqu'au bout. Parce que quand on dit légaliser, et donc un joint public, hein, comme chantait Brassens, pour un joint public, on va faire un joint public comment? Avec un taux de THC faible ou un taux de THC élevé? Parce que si c'est un joint public avec beaucoup de drogue dedans, bonjour la santé publique. Si on fait un joint public avec un petit peu de drogue dedans, bah, il va toujours y avoir les trafics avec de la beuh bien forte et qui continueront d'être vendus au pied des cages d'escalier. Donc je ne sais pas comment on va s'en sortir. Donc d'abord, je souhaite en faire une question de santé publique, dépénaliser
bien
et
compris.
Accompagner ceux qui sont pris en train de fumer un joint plutôt que de les pénaliser.
Fabien Roussel, on vous retrouve dans quelques instants, juste après le flash sur France Inter.
France Inter, Élysée 2022. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Face au 7-9.
Mais oui, ce 7-9-30 spécial présidentiel continue. Notre invité ce matin est Fabien Roussel. Vous allez dans cette dernière demi-heure répondre aux questions de Pierre Aski sur l'international, de Thomas Legrand sur la politique, de Sandy Dauphin sur l'écologie et l'énergie. Augustin Trapenard vous posera la toute dernière question. Mais c'est Dominique Seux qui, sur l'économie, vous pose la première.
Bonjour Fabien Roussel.
Bonjour monsieur.
Alors, c'est vrai, quand on regarde vos propositions économiques, vous n'y allez pas de main morte. Vous y allez quand même plutôt à fond. Vous ne faites pas les choses à moitié. C'est Noël toute l'année. Il y a beaucoup de choses. Hein. On a parlé de la retraite à 60 ans. Il y a une hausse de 30% du point d'indice, très rapide, des nationalisations, un demi-million d'embauches. Il y a énormément de choses. Je ne vais pas tout de suite vous poser la question de savoir si, combien ça coûte. On y reviendra. Mais d'abord, comment votre programme peut être compatible avec le maintien dans l'euro? J'avoue que je ne comprends pas du tout. Parce que l'euro, c'est... certaine modération salariale, c'est la maîtrise des finances publiques, ou au moins un sérieux budgétaire. Est-ce que vous pensez une seule seconde qu'avec votre programme, vous restez dans l'euro ?
Mais vous résumez tellement bien les choses. Effectivement, la politique monétaire de l'Europe, les traités européens, c'est la modération salariale, des politiques d'austérité, des recommandations de faire des économies sur nos services publics, la santé...
J'ai dit le sérieux budgétaire.
Mais derrière le sérieux budgétaire, genre ceux qui disent l'inverse, ils sont pas sérieux. Mollo, hein. Donc, comme si moi, j'étais pas sérieux quand je dis qu'il faut augmenter les salaires et investir dans les services publics. Non, mais c'est tout... les mots, c'est ça. Donc, nous sommes très sérieux quand nous disons que la politique monétaire... Le pouvoir de création monétaire de la Banque Centrale Européenne, qui existe, elle a été mise au service des entreprises, elle a été mise au service des marchés financiers. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, je vous ai laissé poser votre question. Laissez-moi dérouler un petit peu. Moi, ce que je souhaite...
Dérouler, mais pas trop longtemps quand même.
Non, mais pas longtemps, laissez-moi 45 secondes pour vous dire que l'argent de la Banque Centrale Européenne, l'argent... Le pouvoir de création monétaire de l'Europe doit être mis au service d'objectifs sociaux, écologiques, au service du progrès social pour tous, pour investir dans nos services publics, pour sortir l'électricité du marché, justement.
C'est ça que nous voulons faire, nous. J'entends bien. Ma question, c'est comment est-ce que vous pensez que les 18 autres membres de la zone euro, que la Banque Centrale Européenne, vont accepter une seule seconde de dire quelqu'un sort complètement du cadre, fait complètement autre chose que ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord il y a une vingtaine d'années. Et ma question c'est aussi, est-ce que vous n'auriez pas intérêt à sortir de l'euro pour dire, mais au fait on récupère notre liberté, on fait des dévaluations, on s'endette comme on veut.
Et ça c'est caricatural, et c'est peut-être que d'autres font ces propositions, c'est pas du tout ma vision.
Vous souhaitez rester dans l'euro ?
Et c'est pas ma vision en tant que président de la République demain, de ce que je souhaite faire. D'abord, parce que je souhaite construire avec d'autres pays d'Europe. Par exemple, je mettrai tout de suite sur la table, avec les Espagnols, avec les Italiens, avec ceux qui voudront être avec nous, de dire, sortons l'électricité du marché. La dérégulation du marché...
Je parle de l'euro.
Oui, mais l'euro, non mais vous voulez m'opposer à la monnaie euro. Je suis pour maintenir l'euro.
J'essaye de voir comment c'est compatible,
mais je
ça
souhaite,
paraît difficile.
Ce n'est pas l'euro le problème. C'est la politique européenne, monétaire, que l'on fait derrière. Je conteste le fait qu'aujourd'hui, la BCE prête au marché et que cet argent-là soit mal utilisé. Et donc nous proposons...
Vous nous dites on va changer à partir de la France, vous président...
Non, je proposerai la création d'un fonds européen pour l'emploi et le climat, et je demanderai à ce que la BCE prête à ce fonds, et que ce fonds, écoutez-moi bien, que ce fonds prête aux États directement, à taux bonifié, à taux zéro, pour investir dans des services publics. C'est ça que je souhaite. Mais dites-moi que c'est pas possible.
Que c'est très difficile d'avoir à la fois des taux d'intérêt très bas par la Banque Centrale Européenne et d'avoir une politique qui est complètement différente de tous les autres pays.
Mais vous trouvez normal qu'on puisse prêter à taux négatif au marché financier et pas aux États ?
Mon avis, on s'en moque totalement. C'est
quand même terrible ce que vous dites.
Le mien.
Oui, mais c'est quand même terrible. Moi je veux avoir votre avis, vous êtes économiste,
Fabien
monsieur.
Vous ne pensez pas
qu'il faut prêter à taux zéro, voire négatif, aux États plutôt qu'aux marchés financiers ?
Au total, votre programme, est-ce que vous l'avez évalué ? Quand on regarde l'ensemble qui est très complet, combien il coûte au total ? C'est quoi le total ?
Eh bien, je souhaite pouvoir augmenter le budget de la France. Au terme des 5 ans, le budget de la France devra avoir augmenté de 250 milliards d'euros. Et dès la première année, je souhaite augmenter le budget de la France de 120 milliards d'euros. Je souhaite augmenter la taille du gâteau, mais je souhaite aussi changer les ingrédients de ce gâteau parce que je ne voudrais plus qu'il y ait de potions amères dedans.
Il faut ajouter, bien sûr, la nationalisation du secteur bancaire et des assurances qui fait, j'ai regardé hier soir les valorisations, ça fait de l'ordre de 170 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien, et y compris d'ailleurs la nationalisation de... Alors, c'est assez curieux, dans votre programme, vous dites nationalisation de France Télécom. En fait, ça a changé de nom depuis 2013. C'est Orange aujourd'hui. C'est peut-être une précision à apporter. Dernier point, sur le moratoire, vous évoquez le moratoire sur tous les plans sociaux et les licenciements. Et vous dites, je cite, ce moratoire donnera le temps de mettre en place des solutions alternatives avec l'obligation qu'elles ne donnent lieu à aucune suppression d'emploi. Est-ce que ça veut dire que l'économie, le social est gelé ? Les entreprises ne peuvent plus jamais faire évoluer leurs effectifs.
Prestissimo, la réponse, s'il vous plaît.
Je souhaite placer chaque emploi, chaque compétence, chaque savoir-faire sous la protection de la nation. Oui, j'assume. C'est fini le grand déménagement industriel de la France. Et donc, oui, à chaque fois qu'il y aura une menace de délocalisation, je demanderai d'abord à ce que l'on mette toutes les solutions alternatives sur la table, y compris les salariés en ont des solutions. Les salariés n'ont jamais été le problème. Ils sont bien souvent la solution. Et donc, je souhaite qu'à chaque fois, on puisse trouver la solution. Et donc, je dis, on bloque les délocalisations, on cherche des solutions et on en trouve. Les jours heureux, y compris pour l'industrie.
Et on en reste là. Merci Dominique. Passons maintenant aux questions sur l'écologie avec la spécialiste environnement de la rédaction de France Inter, Sandy Dauphin. Question sur vos choix énergétiques et pour commencer, le nucléaire.
Fabien Roussel, bonjour. Emmanuel Macron vient d'annoncer la relance d'un programme nucléaire avec 14 nouveaux EPR, le prolongement de la durée de vie des centrales au-delà de 50 ans et un gros coup d'accélérateur dans les énergies renouvelables. Vous êtes finalement sur la même ligne?
À une nuance près, c'est que je souhaite, moi, un grand service public de l'énergie avec EDF à 100% dans le cadre d'un EPIC et intégrant Engie aussi. Et donc, c'est la différence. L'autre différence, c'est que je souhaite investir dans la recherche, relancer le projet Astrid pour l'énergie nucléaire du futur et aussi mettre en place une grande filière de formation en matière du nucléaire. Je veux des CAP du nucléaire, je veux des soudeurs du nucléaire, je veux des ingénieurs et des chercheurs du nucléaire. Nous avons tellement perdu, nous avons perdu 20 ans et nous devons construire les 80 ans qui viennent.
Nous avons perdu en compétences, vous voulez dire, dans cette filière?
Ah oui, nous avons perdu en compétences, ce qui fait les gros retards et le surcoût de Flamanville, tellement nous avons abandonné nos compétences et nos savoir-faire. Donc il faut...
Mais on peut relancer quand même 6 EPR en l'état actuel de la filière.
C'est un gros défi.
Ce que vous dites, c'est votre programme, 6 EPR,
bien sûr.
EPR, je pense.
C'est un gros défi, mais pouvoir faire 6 à 8 EPR en même temps, en série, permet de réduire les coûts. Ces nouveaux réacteurs, je le précise pour les auditeurs, ce n'est pas de nouvelles centrales que l'on va avoir à la sortie de chez soi. C'est dans les centrales actuelles où on va ajouter un réacteur. Donc, il n'y aura pas de création de nouvelles centrales. Et je souhaite qu'il y en ait un à Gravelines, par exemple, chez moi, parce qu'on a une industrie sidérurgique importante et je souhaite qu'on réindustrialise. Et donc, oui, nous en avons besoin. Est-ce que je peux me permettre de parler du scénario Négawatteur?
Allez-y,
dont s'inspirent beaucoup
Jadot
et Mélenchon. Jadot et Mélenchon, eux, disent il ne faut pas faire de centrale nucléaire parce que nous nous inspirons du scénario Négawatteur, qui lui prévoit...
Du scénario 100% énergie renouvelable.
100% énergie renouvelable et donc 550 TWh de production d'électricité en 2050, alors qu'il en faudrait 200 de plus. Mais dans ce scénario Négawatteur que prévoit... dont s'inspirent Jadot et Mélenchon. Mais il faut lire jusqu'au bout ce qu'ils prévoient. Ils prévoient d'arrêter de construire des maisons individuelles d'ici 2050. Aujourd'hui, c'est ça, hein, la sobriété énergétique. Moi, je suis pour que l'on isole les appartements, les logements sociaux et que l'on mette le paquet là-dedans. Mais eux, ils vont plus loin. Ils interdisent la construction de maisons individuelles. Aujourd'hui, on en construit 200 000 par an. Dans Négawatteur, ce sera 19 000 par an. Ils dénient aux gens à la campagne et dans la ruralité d'avoir le droit de bâtir leur maison.
Mais
c'est pas possible.
Deuxième tour, si vous n'êtes pas au deuxième tour, est-ce que vous pourriez appeler à voter pour un candidat de gauche qui prône une sortie du nucléaire?
Je demanderai des engagements.
Quel type d'engagement?
Je demanderai des engagements à ce que la France ne remette pas en cause ce projet que lance le président de la République d'investir dans la production d'énergie nucléaire à côté d'investissements dans la production d'énergie renouvelable, car nous en avons besoin, car nous ne relèverons pas les défis de la France, de son industrie, de l'avion du futur, du train du futur, des voitures du futur.
Alors parlons de transport rapidement,
élection,
puisqu'on manque
sans
de temps.
Sans cette électricité décarbonée. Je veux une France décarbonée en 2050.
Rapidement,
les transports collectifs, donc vous prenez les transports collectifs, gratuité des transports urbains, réouverture des petites lignes SNCF, et la voiture
ouverture
dans tout ça
gares.
Tout à l'heure, vous disiez la voiture propre pour tous. C'est quoi une voiture propre aujourd'hui, selon votre...
Mais parce que j'en ai marre, là aussi, dans les grandes métropoles de France, les écolos, les socialistes,
propre,
ils sont en train d'interdire la voiture dans ces grandes métropoles. Les critères 3, 4, 5 seront interdits. Ils veulent lutter pour contre la pollution.
Est-ce qu'on électrifie le parc automobile? Vous pourriez juste répondre sur la voiture propre, c'est quoi?
La voiture propre, c'est une voiture critère 1 et 2. C'est donc les critères qui sont définis.
Essence.
Ce sont des voitures hybrides propres. Hybride, ce sont les critères 1 et 2. Regardez les critères,
c'est
y
pas
compris.
Essence et diesel,
non, il y a aussi du thermique dans les critères 1 et 2.
Donc vous ne
mais
sortez pas complètement
normes,
du thermique.
C'est mais juste avec des normes fortes. Ce que je souhaite, c'est que ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture dans ces grandes métropoles puissent avoir la possibilité d'acheter une voiture propre. Il ne faut pas lutter contre la pollution en tapant sur les classes populaires. Il faut le faire avec elles. C'est pour ça que je propose une prime de 10 000 euros pour l'achat d'un véhicule d'occasion propre, pour qu'on puisse transformer le parc automobile et garantir à chacun le droit à la mobilité, que ce soit les grands-parents qui veulent aller voir leurs petits-enfants ou ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler la nuit parce qu'il n'y a pas de transport collectif.
Une dernière question, justement. Qu'est-ce que vous dites aux gens pour les convaincre qui ont des fins de mois difficiles, qui s'inquiètent de leur pouvoir d'achat? Qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre que la priorité aujourd'hui, c'est le climat, c'est la lutte contre le changement climatique?
Fabien Roussel, rapidement.
Là, je souhaite une France décarbonée en 2050. Je souhaite sortir des énergies fossiles. Et pour le faire, il nous faut changer nos modes de transport. Il faut changer nos modes de production et de consommation. Et il faut aussi investir dans une énergie décarbonée. Et l'énergie décarbonée, c'est celle des renouvelables, mais c'est celle aussi du nucléaire.
Merci Sandy Dauphin. On passe à vous, Thomas Legrand. Vous souhaitez interroger Fabien Roussel sur différentes questions de société.
Oui, bonjour Fabien Roussel.
Bonjour.
On pose rarement aux communistes des questions de société. On reste souvent sur le social. Et en fait, j'ai regardé votre programme. Il va très loin sur les questions de société, notamment sur les droits LGBT. Je vous lis le point 89, qui est d'ailleurs écrit en écriture inclusive. Garantir l'égalité des droits des personnes LGBTQI+. Plus, les exigences d'émancipation et d'égalité posent des questions, les questions de la reconnaissance et du respect des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en loi? Qu'est-ce que vous voulez changer? Quelle réforme vous voulez faire?
Ça veut dire que les propos contre toutes ces personnes en fonction de leur genre ou de leur sexe doivent être sévèrement réprimés. Ça ne l'est pas assez aujourd'hui. Il manque de respect, de reconnaissance, et donc nous souhaitons, nous, garantir les mêmes droits indistinctement du sexe ou du genre. Et donc, c'est laisser la place à chacun, sans distinction, et donc être plus dur, justement, à l'encontre de ceux qui, parfois...
Il y a un point de votre programme qui dit qu'on peut changer d'état civil gratuitement, librement et sans préalable.
C'est une demande qui est faite par ces associations de pouvoir changer d'état civil et que nous soutenons effectivement. Ça fait partie des propositions que je fais.
Je voudrais revenir sur votre opposition à Jean-Luc Mélenchon et je voulais savoir si vous assumiez le fait que finalement pour cette campagne présidentielle, la question n'était pas tant d'être élu président de la République, mais de reprendre un certain leadership sur la gauche ou de jouer déjà l'après, et ça serait pas d'ailleurs indigne, de jouer la reconstruction d'après. Ou est-ce que vous vous présentez pour être président? Vous y croyez?
Non, mais toute la force que l'on pourra me donner à cette élection, la force que l'on va me donner, sera déterminante pour pouvoir justement faire grandir les idées que je porte. La force que l'on me donne, le pourcentage que l'on me donnera, c'est un rapport de force que je veux construire pour faire respecter le monde du travail, pour faire respecter la France populaire, la France rurale,
ça,
la France des banlieues.
C'est intéressant parce que ce que vous me dites
c'est
là...
C'est une force que je veux mettre au service, oui, au service du peuple.
Donc
pour
vous
construire
pas,
avec eux.
Vous ne pensez pas que la gauche puisse gagner cette élection présidentielle?
Mais si, justement, quand je vous dis que c'est un rapport de force que je veux construire, c'est quand on me donne de la force, moi, une fois les élections passées, je ne dis pas, c'est terminé.
Imaginez que vous fassiez vous fassiez 6, 7, 8%.
Hein, mais j'espère beaucoup plus. Oui.
Peut-être plus. Et Jean-Luc Mélenchon...
Mais vous imaginez ce que ça représentera en France.
Mais vous ne pouvez pas gagner.
Si demain, la France des jours heureux pèse
vous ne pouvez pas
arrive
gagner.
Même en tête de la gauche.
Vous ne pouvez pas gagner et vous pouvez empêcher Jean-Luc Mélenchon, qui est en tête, d'aller au second tour. Donc moi je voulais simplement que vous me disiez clairement, cette fois-ci c'est pas pour la gauche, cette fois-ci on va reconstruire la gauche, et ça serait pas une position indigne, ça serait intéressant.
Je le dirai pas parce que l'espoir nourrit l'espoir, je ne cesse de le dire et je veux garder l'espoir. Vous aurez noté que depuis le début, justement, je progresse, et quand je progresse, je vais gagner j'arrive à convaincre des abstentionnistes, j'arrive à en convaincre, je veux convaincre des abstentionnistes à voter pour moi, je veux convaincre des électeurs de Macron à voter pour moi. Je veux convaincre des électeurs de l'extrême droite à voter pour Roussel.
Oui, mais ça ne suffira
pas. Oui,
ça
mais en faisant ça...
Roussel plus Mélenchon...
Imaginez ce ruissellement dans les urnes, justement. Imaginez que là, juste, on me donne de la force,
qui peut bousculer. Donc vous pensez pouvoir gagner ? Est-ce que vous pensez pouvoir gagner ?
Mais quand ils vont découvrir, je pense à la droite, au MEDEF, à Macron, quand ils vont voir les sondages, quand ils vont voir cette percée, mais ils vont avaler leur croissant de travers le matin en lisant leur Figaro.
Peut-être.
Ils vont se dire, mais c'est un coup de tonnerre.
Peut-être,
et moi, je dirais, c'est pas un coup de tonnerre, je dirais, c'est un coin de ciel bleu. Regardez, ça s'ouvre. Enfin, il y a de l'horizon.
Aux deux dernières élections, vous aviez exactement la même position sur le nucléaire, et Jean-Luc Mélenchon avait exactement la même position sur le nucléaire. Ça ne nous a pas empêché d'aller ensemble.
Mais c'est
Mélenchon
bien pour ça qu'on n'y est pas, parce que lui, il a changé. Et lui, il a changé.
Non, il n'a pas changé. Il n'a pas changé.
Lui, il a changé. Il est plus
pour...
Sur le nucléaire,
il est plus pour le nucléaire.
Non, mais vous aviez la même position que maintenant, et lui avait la même déjà la dernière fois. La dernière fois, il voulait sortir du nucléaire. Peut-être pas en 10 ans, et il n'était pas sur le scénario négawatt, mais le but, c'était de sortir du nucléaire.
Voilà. Il est sur le scénario négawatt aujourd'hui. Donc, il a changé, lui, pas nous.
Donc, là-dessus... alors que maintenant, il vous propose de vous entendre sur cette question.
Mais je vois toutes ces lignes qui bougent. Lui propose de revenir. Le maire maintenant propose la nationalisation d'EDF.
Je constate que vous jouez le coup d'après et c'est peut-être intéressant, mais en tout cas, c'est pas pour cette élection.
Je joue pas. C'est sérieux ce qui se passe et je souhaite véritablement reconstruire un espoir fort et que les idées que je porte s'imposent. Je veux les faire gagner, ces idées. Je veux les faire gagner en 2022, en avril. Je veux même les faire gagner aujourd'hui. Je veux que Macron augmente les salaires maintenant et les pensions maintenant. Je veux créer ce rapport de force sincère et le faire avec les gens. Non, c'est maintenant qu'il faut que ça change. Mais c'est pas après.
Merci.
Et donc je suis dans ce combat-là à l'instant présent.
Merci Thomas Legrand. Pour finir ce tour de table, la place désormais à Pierre Aski sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Bonjour Fabien Roussel. Est-ce que vous croyez au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ?
C'est ce que nous défendons partout, et le respect du droit international, et le respect de chaque peuple à déterminer leur destin, à définir
Comment expliquez-vous que vous en priviez deux peuples, le peuple ukrainien et le peuple de Taïwan, qui ont des statuts très différents, mais qui sont aujourd'hui sous pression de leurs puissants voisins pour changer une voie qu'ils ont librement définie, puisqu'ils sont deux entités démocratiques?
Alors, je les prends comment ? Séparément, ensemble ?
Séparément, parce que c'est pas la même chose.
C'est complètement différent.
Commençons par Taïwan, parce qu'on a déjà parlé de l'Ukraine.
Pour Taïwan, je m'en tiens, moi, à la politique officielle de la France, et je ne la changerai pas. La France, aujourd'hui, ne reconnaît qu'une seule Chine, la République populaire de Chine, depuis, de mémoire, 1964, général de Gaulle, qui reconnaît la République populaire de Chine, et la France ne reconnaît qu'une seule Chine, et ne reconnaît pas Taïwan comme un État.
Mais il y a jours, vous avez, à ces temps-là, vous avez soutenu l'idée que Taïwan devrait être dans le système, un pays de système comme l'était Hong Kong.
C'est interrogé sur les deux. Il y a un État et deux systèmes pour Hong Kong.
Qui n'existe plus, vous en convenez.
Je constate effectivement, comme vous, que la Chine met beaucoup la pression sur Hong Kong. Non, mais effectivement, et ils vont au-delà de ce qui est prévu dans le calendrier de rétrocession de Hong Kong à la Chine d'ici 2045 ou 47.
C'est ça, c'était 50 ans.
Concernant Taïwan, c'est une autre situation. Il n'y a qu'une seule Chine. Taïwan n'est pas un État. Il n'est pas reconnu par la France. Taïwan n'est pas reconnu par l'Union européenne. Il n'y a qu'un seul. Il
n'y
a que le Vatican qui reconnaît Taïwan. Oui. En revanche, je suis pour que Taïwan puisse participer à des organisations telles que l'OMS, quand on doit lutter contre la pandémie, il souhaite pouvoir être présent et nous défendons cette position-là. Et
donc, vous dites aux 23 millions de Taïwanais qui ont obtenu la démocratie par leur propre combat, qu'ils doivent se soumettre à une dictature plus puissante à côté?
Je dis la même chose que Jean-Yves Le Drian aujourd'hui, que les autres ministères des Affaires étrangères hier et certainement ceux de demain, si je suis président de la République ou même un autre. La position de la France concernant Taïwan est de respecter un État qui est la Chine, et en même temps, c'est ce que nous disons aujourd'hui, c'est que le dialogue puisse se nouer véritablement, pour qu'il n'y ait pas d'affrontement. Et je vois bien les menaces qui pèsent sur Taïwan. Et je n'accepterai pas une pression militaire de la Chine sur Taïwan. Je le dis aussi ouvertement. Et donc, il faut qu'il y ait un dialogue. Il y a une poussée nationaliste à Taïwan. Et effectivement, une population, des électeurs, un gouvernement qui veut se séparer. Mais nous, on n'a pas à rentrer dans ce jeu-là.
Si on prend l'Ukraine... Autre problématique, puisque c'est un État souverain, membre des Nations Unies, qui a choisi sa voie et qui ne veut pas suivre ce que préconise la Russie. Comment vous pouvez dire à l'Ukraine les intérêts de sécurité de la Russie sont plus importants que votre volonté?
Ah non, je dis pas ça. Je dis que nous avons...
C'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure.
Non, pas du tout. Écoutez bien ce que j'ai dit. J'ai dit que la sécurité collective de tous les peuples d'Europe, y compris l'Ukraine, sera garantie en garantissant aussi la sécurité du peuple russe. C'est-à-dire que nous sommes liés, interdépendants. Et donc nous devons créer tous ensemble les conditions d'un dialogue et d'apaisement. Or, il y a des demandes de part et d'autre. L'Ukraine demande à rentrer dans l'Union européenne et demande à rentrer dans l'OTAN. Ce sont deux choses différentes. Il y a aujourd'hui
des pays...
Vous
savez que ce n'est pas d'actualité.
Il faut que ce soit dit, il faut que ce soit verbalisé.
Qui le dit aujourd'hui? Est-ce que la demande doit être faite avec 130 000 soldats qui encerclent un pays?
Mais est-ce que la demande soit faite avec une armée aussi américaine qui veut implanter une base de l'OTAN au sein de l'Ukraine? Mais dites-moi...
Pardon, l'armée américaine veut implanter des bases en...
L'intégration, les États-Unis, s'ils veulent intégrer l'Ukraine dans l'OTAN... C'est pour pouvoir s'installer en Ukraine, aux portes de la Russie.
Mais qui aujourd'hui parle concrètement d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN?
Vous savez très bien que l'OTAN
ne va pas intégrer un pays qui est en conflit avec un de ses voisins.
Mais ils l'ont fait en 2008. C'était à la demande des États-Unis au sommet de l'OTAN de Bucarest que les États-Unis ont poussé, et ils poussent toujours, à ce que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Et la France, l'Allemagne... À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy. On dit non. Et aujourd'hui, moi, Fabien Roussel, je dis non aussi. C'est la position de la France depuis plus de 15 ans. Respectons cette position-là et disons-le, verbalisons-le. Je vais vous donner une autre référence. Quand l'URSS a voulu mettre des missiles à Cuba en 1962, tournés vers les États-Unis, il a failli avoir un conflit mondial. Vous vous souvenez de ça? Et les Russes, ils ont dû plier bagages et renvoyer leurs missiles. Et là, à l'époque, on trouvait ça tout à fait anormal que les Russes viennent mettre des missiles à Cuba.
C'est pas une démocratie.
Aujourd'hui, et Cuba, je vous signale que tout le monde, aujourd'hui, dont la France, réclame la levée de l'embargo contre ce pays qui, depuis 30 ans, pèse sur son économie. Tout le monde, tous les pays... demande aux États-Unis de lever cet embargo.
Merci Pierre Aski. Quelques questions de fin. Léa, on commence.
Rapidement, qui faites-vous entrer au Panthéon si vous êtes élu président?
Martha Desrumaux, une ouvrière députée qui a défendu les conditions des femmes dans l'industrie textile et qui est une grande dame et qui aurait toute sa place pour représenter justement les femmes qui luttent. Elle a été première femme députée au lendemain de la guerre grâce à la loi des communistes sur le droit de vote des femmes.
Et on entend votre réponse.
C'est la condition ouvrière que je souhaite mettre au Panthéon.
Puisque vous aimez le vin, vous êtes plutôt Bordeaux, Bourgogne, Loire, Sud-Ouest?
Tout ça à la fois.
Tout ça à la fois.
Mais plutôt bière. Et aussi, je suis pour l'eau minérale, et notamment l'eau de Saint-Amand-les-Eaux, qui est une eau minérale absolument exceptionnelle.
Littérature, vous êtes plus Céline ou Houellebecq?
Je vous dirais que j'ai lu les deux. Dans mon parcours, j'ai lu Céline à l'école, j'ai lu Houellebecq adulte, et que je les oppose pas.
Croyez-vous préférer lequel ?
Je lis plus ça. Je lis plutôt des polars.
Jean-Patrick Manchette, peut-être. Croyez-vous aux forces de l'esprit ?
Oui, un petit peu. C'est pas. Vous faites référence à qui en disant ça? Vous savez que
Mitterrand.
J'aime bien citer Mitterrand quand il disait dans son discours d'Épernay l'argent qui pourrit jusqu'à la conscience de l'homme. Il avait fait un discours très très fort justement sur le poids de l'argent, sur le poids des monopoles dans l'économie, et j'y fais souvent référence.
Et la question de fin avec vous, Augustin Trapenard, bonjour.
Bonjour Fabien Roussel.
Bonjour.
Une dernière question sur votre programme, j'ai lu en détail, notamment sur cette notion centrale, à mon avis, d'éducation populaire, que vous associez d'ailleurs à la culture et aux médias dans un grand ministère, c'est le point 111 de votre programme. Alors, pour qu'on comprenne bien, exemple à la pluie, qu'est-ce que vous entendez par ces associations d'éducation populaire que vous voulez développer? Quels sont leurs ressorts? Comment les développer? Surtout, pour quels résultats?
L'éducation populaire, c'est ce que beaucoup de maires communistes ont mis en place dans leur commune, et c'est favoriser l'accès à tous dans les quartiers, dans les villages, dans la ruralité, l'accès à tous, à la culture, à l'éducation, et c'est pouvoir la garantir. Et donc, ce que nous avons su faire à l'échelle des villes, je souhaite pouvoir le faire à l'échelle de la France. C'est aussi le projet que je défends pour l'école, et je dis à tous les enfants qui m'écoutent, avec moi, président de la République, fini les devoirs à la maison, on fera les devoirs à l'école. Et comme ça, on pourra en profiter pleinement.
À cette heure-ci, ils sont à l'école.
Oui. Merci, merci beaucoup Fabien Roussel. Merci d'avoir été au micro d'Inter aujourd'hui. Il est 9h30.